Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans l'Intégral Foot. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Coach Courbis et Kevin Diaz sont à mes côtés pour cette grande après-midi de foot. Salut Kevin, salut Roland.
Salut les gars.
Salut les amis.
Ravi de vous retrouver, c'est le grand soir, 38e et dernière journée de Ligue 1 à suivre dès 21h sur RMC. Et de la distance évidemment dans la course au titre entre Lille et le PSG. On en parle dans quelques secondes avec Jean Baumel et Loïc Braille. Et à 17h30 la course à l'Europe, Monaco et Lyon pour la Ligue des Champions, Marseille, Lens et Rennes pour les autres places qualificatives. Et puis à 17h40, un invité, Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs. On rappelle que plusieurs de ses joueurs d'ailleurs sont concernés dans la course au maintien. Ça va peut-être avoir une influence sur la liste des joueurs qu'il a retenu pour le quart de finale de l'Euro Espoir le 31 mai prochain. Et puis à 18h, événement sur RMC, les retrouvailles entre coach Courbis et Eli Bop. On reviendra sur la course au titre complètement folle en 99 entre Bordeaux et Marseille. C'est parti pour l'Intégral. Avec quelques directs, notamment l'Angleterre, la Première Ligue, c'est là aussi la dernière journée de championnat. On connaît les équipes qui descendent, on connaît le champion, on connaît le deuxième également, parce que les deux clubs de Manchester terminent aux deux premières places. Il y a des enjeux notamment dans la course à la Ligue des Champions. Salut Anthony Reich.
Salut Benoît, bonjour à tous. Oui, effectivement, des enjeux importants. Trois
Est-ce
équipes.
Que Liverpool va y accéder,
c'est ça. Voilà, c'est ça qui finit la saison en boulet de canon, Liverpool. Trois équipes se disputent les deux derniers tickets. Chelsea, troisième avec 67 points. Liverpool, quatrième, 66, qui a intégré le top 4 justement la journée précédente. Et puis Leicester, cinquième avec 66 points, cinquième avec une moins bonne différence de but par rapport aux Reds. Les trois équipes sont sur le terrain puisque c'est aussi un multiplex pour cette journée. Les coups d'envoi ont été donnés il y a cinq petites minutes. Dans les rencontres, Chelsea se déplace sur la pelouse d'Aston Villa, le 11e. Leicester reçoit Tottenham, 7e. Et Liverpool reçoit Crystal Palace, 13e pour l'instant. Pas de but marqué.
Ouais, tu nous tiens informé dès qu'il y a des buts importants dans la course donc à la Ligue des Champions. Autre direct, c'est le vélo, le Giro avec cette 17e étape qui a mis du temps à partir, une énorme chute après le départ réel avec des conséquences évidemment. Il reste 5 km à parcourir. Pierre-Amiche, salut Pierrot.
Salut Benoît, 5 km 700 pour être précis avec deux hommes en tête. Oscar Riesebeek, le grand gabarit hollandais, suivi de Victor Kampenaerts, la machine à rouler belge. Les deux hommes comptent 17 secondes d'avance sur 6 hommes, parmi lesquels un coureur d'une équipe française, Simone Consoni, habituel poisson pilote de Elia Viviani, qui cette fois va jouer sa carte. Il compte 19 secondes de retard derrière les battus. Il faisait partie de la bonne échappée du jour, parmi lesquels Lars van der Berg. Malheureusement, le coureur de la Groupama FDJ ne sera pas du bon coup. Et plus loin, beaucoup plus loin, 13 minutes 29 derrière, on retrouve le peloton emmené par les Ineos Grenadiers de Egan Bernal, le Colombien qui ne sera pas inquiété aujourd'hui pour sa tunique rose. À noter, tu l'as dit, une grosse chute et 4 abandons, dont parmi lesquels Emmanuel Buchmann, le leader de la Bora Hansgrohe, qui faisait partie des rares à avoir su rivaliser avec le Colombien sur les pentes de ce Giro 2021. Eh bien, il a abandonné 6e du général. Il cède sa place à Giulio Ciccone qui gagne une place, tout comme Romain Bardet qui est désormais 9e du classement général. 4 km 900 dans cette 15e étape entre Grado et Gorizia. Et deux hommes vont peut-être se disputer la victoire. Les deux hommes, Oscar Riesebeek et Victor Kampenaerts.
17h08 sur RMC, c'est le grand soir. Le LOSC est à 90 minutes du bonheur.
La course au titre.
C'est l'épilogue de la Ligue 1 ce soir, 21h sur RMC. 10 matchs à suivre en intégralité et un titre de champion à aller chercher pour Lille ou pour le PSG. Monaco a également une infime chance de titre, mais ce sera extrêmement compliqué pour les Monégasques. Jean Baumel, correspondant à RMC Sport dans le Nord, est avec nous. Salut Jean.
Salut Benoît, salut Kevin, salut coach. Salut à toutes et à tous.
On accueille également Loïc Braille, notre spécialiste du PSG. Salut Loïc.
Salut Benoît, salut tout le monde.
Et on voit un duel. Les données, elles sont simples. Lille est en tête du championnat avec un point d'avance sur Paris. Le LOSC sera sacré champion s'il gagne à Angers ou s'il fait au moins aussi bien que Paris qui se déplace à Brest. Démarrons donc par les Lillois, Jean Baumel. On les a sentis crispés la semaine dernière contre Saint-Etienne. Match nul 0-0. Est-ce que tu les sens prêts pour ce grand rendez-vous, eux qui visent un quatrième titre de champion de France?
Bah écoute, quand on voit la semaine dernière, c'est vrai qu'il y avait un petit peu d'inquiétude, même dans les déclarations de Christophe Galtier à l'issue de la rencontre qui parlait de nervosité. Alors il a il a changé le mot avant-hier en conférence de presse. Il a parlé de crispation. On avait vu le visage quand même de certains joueurs après Saint-Etienne et le match nul, un peu déçu. De toute façon, il fallait prendre 4 points sur les deux matchs. Ils en ont pris un. Il faudra en prendre donc 3 ce soir. Il n'a rien révolutionné cette semaine. Pas de préparateur mental. Voilà, il a discuté avec certains joueurs, mais voilà, il y a pas de révolution. Il y aura des changements dans la compo, voilà, obligatoire, puisque José Fonte, lui, est suspendu. Donc Thiago Diallo qui sera titulaire. Mmh. La grande question, ça sera de savoir qui sur les côtés. Sanchez, je pense, sera titulaire parce qu'il en a parlé en conférence de presse. On a senti que le Portugais, en plus, qui vient d'être sélectionné avec José Fonte pour l'Euro avec le Portugal. Voilà, on sent qu'il veut le mettre titulaire. Est-ce qu'il va mettre Yazice ou Arojo ou Ikoné ou Bamba? On va voir. Sanchez peut jouer à droite, peut jouer à gauche. Voilà, ça sera la petite attraction au niveau de la compo lilloise. Sinon, pour le reste, ça sera du grand classique, notamment André et Soumaré au milieu de terrain, puis bien sûr Yilmaz et David devant.
Ok, on va l'écouter, Christophe Galtier, qui a tenu à dédramatiser cet événement, même si le rendez-vous est important pour lui et ses joueurs.
On a joué au boule, on a fait le ping-pong, on a inauguré l'ouverture des terrasses. Et oui, non, les joueurs, ouais, je les ai trouvés. J'avais parlé de nervosité, mais je trouve que c'était plutôt de la crispation. Mais le fait est que on avait fait un match très moyen et évidemment que j'en ai parlé à mes joueurs. Déjà, je les ai rassurés sur le fait que de toute façon, il aurait fallu 4 points pour décrocher le titre et qu'ils avaient fait déjà une certaine partie du chemin.
Roland, est-ce que c'est la bonne solution, essayer d'évacuer la pression pour les joueurs et les laisser un peu tranquilles?
Mais ça, la réponse, elle est simple. Ma réponse, on le verra à la fin du match, mais plaisanterie mise à part. Je pense qu'il peut tourner le problème en long, en large et en travers. Quand tu as 4 points à prendre, il vaut mieux quand même, mais beaucoup mieux, prendre déjà les 3. Ouais. Et dans le dernier match, ne pas avoir l'obligation de gagner, mais l'obligation de ne pas perdre, alors que là, c'est tout le contraire. Et quand tu as l'obligation de gagner, je regardais tout bêtement une absence qui me paraît très importante sur le plan défensif, malgré le gardien extraordinaire qu'ils peuvent avoir, Fonte, c'est quand même une absence très importante. Et quand je vois dans une équipe de football, quelle que soit l'équipe, un quatuor, Cabo, Fulgini, Pereira-Lade et Baoken, pour moi, ce quatuor peut marquer à tout moment contre n'importe qui et contre Lille sans Fonte ou même contre Lille avec Fonte. Et là, s'il y a ouverture du score d'Angers, on l'a vu hier soir avec le Real, l'Atlético, eh ben ils ont réussi quand même à gagner, mais c'est pas si simple que l'on peut penser. Donc pour moi, Lille évidemment va tout faire, mais ça c'est une évidence pour gagner. Mais gagner à Angers cet après-midi, enfin ce soir, ça serait pour moi comme un exploit qui résumerait l'exploit de toute une saison.
Et justement, Kevin, on peut le voir différemment et se dire, en fait, c'est une vraie finale à jouer pour eux. S'ils gagnent, ils seront champions, tout simplement, en fait.
Bah, on peut dire que l'idéal pour Lille, ça aurait été de prendre 6 points sur les 2 derniers matchs. Maintenant, on savait que ça allait être compliqué. D'ailleurs, on en a parlé avec coach la semaine dernière. Contre Saint-Etienne, qui était en forme, faire un match nul dans un match où tu aurais pu perdre, pas dire dû, mais tu aurais pu perdre.
Les 10 dernières minutes avant de contre 10.
Ouais, et après, tu aurais pu aussi le gagner. Maintenant, moi, je trouve que s'il devait faire match nul, je suis pas d'accord avec le coach. Pour moi, j'aurais préféré faire match nul la semaine dernière. Parce que ce match nul-là, il t'oblige de gagner. Et ça veut dire que tu sais ce que tu dois faire.
À moins calculer, quoi, quelque part.
Tu sais que si tu gagnes pas, tu vas changer.
Mais tu dois gagner.
Ouais, mais si tu.
C'est plus compliqué.
Là, il n'y a pas de gestion à avoir. S'il reste 20 minutes et qu'il y a 0-0, tu sais que tu dois gagner. Alors que tu peux te dire, ah bah tiens, il y avait 0-0, un point, ça nous suffit. D'ailleurs, tu prends un corner et tu prends un but à la 85e et tu perds le titre.
Kevin.
Donc moi, je trouve que, en tout cas, selon moi, les choses sont plus claires aujourd'hui pour Lille. Il faut gagner. Après, ils peuvent avoir une petite oreille du côté de Brest, même si on pense que le PSG va s'imposer à Brest, c'est pas dit non plus, parce que Brest joue sa survie. Donc on verra. Mais en tout cas, Lille, ce soir, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est gagner pour être champion.
On regarde Kevin, ta réponse pour Kevin dans un instant.
Je vais quand même essayer de le convaincre.
Ouais, 2 secondes, coach. On va juste faire le dernier kilomètre de la 17e étape du Giro.
La flamme rouge.
Avec Pierre-Amiche, évidemment.
Et même moins, un petit peu moins, Benoît. 800 mètres désormais, ils ne sont plus que deux à pouvoir lever les bras. Victor Campenaerts et Oscar Rysbeck, le grand Hollandais d'1m91 qui s'est désormais abrité derrière le petit mètre 73 de Victor Campenaerts. Campenaerts plus habitué à gagner des contre-la-montre sur ses 7 succès. 6 fois, c'est dans l'exercice chronométrique. En revanche, Oscar Rysbeck est davantage un équipier, n'a jamais levé les bras sur le circuit World Tour. Il reste désormais 500 mètres. Victor Campenaerts toujours en tête. Attention de ne pas trop se regarder parce que derrière, Albert Torres fait l'effort. Le coureur de la Movistar qui pointe à quelques secondes. 500 mètres de la ligne sur les pavés trempés du Giro d'Italie pour cette étape qui va se terminer et qui va être tout simplement jouée entre les deux échappés du matin. Victor Campenaerts qui se retourne est à 300 mètres désormais avec dans sa roue toujours le Hollandais de la Alpecin Phoenix. Alpecin Phoenix déjà victorieuse sur ce tour avec notamment le sprinter Tim Merlier. En revanche, Victor Campenaerts qui va lancer le sprint. Attention, il est débordé sur la droite. Ça va trop vite pour le gros gabarit de Victor Campenaerts et ses grosses cuisses plus habituées à contre la montre qui va être débordé sur sa droite. Il va faire l'effort et prendre la roue de son adversaire. Campenaerts toujours. Campenaerts qui va désormais passer devant sur les pavés. Campenaerts qui fait l'effort et qui va remporter son 8e succès. Le premier sur un grand tour pour le prodige. La machine à rouler belge. Les autres sont tous battus. Le sprint des premiers perdants sera réglé par Consoni devant Niklas Arndt. C'est donc une victoire. Victoire majeure pour Victor Campenaerts qui s'impose sur cette étape du Giro. Premier succès sur un grand tour pour le Belge. Deuxième victoire seulement sur l'épreuve classique de course en ligne. Le maillot rose lui restera bien accroché sur les épaules d'Egan Bernal qui va désormais pointer eh bien, à 13 petites minutes du vainqueur du jour. Mais pas de souci pour le leader colombien qu'on retrouvera dès demain pour demain, une étape magique.
Arrivé Cortina d'Ampezzo.
Ah pardon, oui, arrivé Sassile Cortina d'Ampezzo, 212 km, 4 cols, 3 cols à plus de 2000 mètres. On va se régaler, on attend un feu d'artifice et surtout évidemment, on attend un Egan Bernal plus dominateur que jamais. Lui qui, au général, pour rappel, Benoît, compte 1 minute 33 d'avance sur Simon Yates. Le premier Français est classé 9e, c'est Romain Bardet qui est à 4 minutes 30. Et puis un Italien dans le deux Italiens dans le top 10, ce seront eux qui vont animer la course, Damiano Caruso et Giulio Ciccone. Toute l'Italie attend beaucoup d'eux.
Merci Pierre-Amiche. La note sur 20, Kevin Diaz, sur l'accent flamand de Pierre-Amiche, sur les noms des deux coureurs qui sont disputés la gagne.
Zastin and Alf.
Ah, donc 16 et demi, pas mal, mais peut mieux faire. Bravo Pierrot.
Yes.
17h17.
J'ai jamais eu ça à l'école.
Ouais, j'imagine, ouais, ça m'étonne pas. La première ligue également, la 38e et dernière journée, il y a eu déjà pas mal de buts en moins de 20 minutes, Anthony Reich.
Ouais, et le champion a déjà frappé. Manchester City mène déjà 2-0 grâce notamment à Kevin De Bruyne et Gabriel Jesus. United mène et il y a peut-être déjà un premier moment clé dans cette 38e journée. C'est le penalty pour Leicester. Jamie Vardy qui s'élance et qui frappe et ses buts. 1-0 pour les Foxes face à Tottenham. Et du coup, avec ce score, les Foxes repassent devant Chelsea et Liverpool avec 69 points. Et ils sont, pour l'instant, provisoirement en Ligue des Champions. Peut-être la fin de la malédiction pour Leicester.
Du public dans les stades.
Ah, ça fait frissonner. Hein,
même
de
si
voir
on
n'a
pas le son, c'est magnifique.
Exactement.
On les voit bouger.
Ouais. 17h18, Roland Courbis me fait le grand signe. Je ne t'ai pas oublié, Roland. Tu peux répondre à Kevin Diaz. On parlait de la course au titre et de l'enjeu de la soirée pour les Lillois qui sont dans les placements à enjeu. À Angers, pardon.
Ben, absolument, dans le sens que tout ce que dit Kevin est intéressant, je lui rajouterai quand même en insistant que quand tu te retrouves à la 38e journée et que tu as l'obligation de gagner, non pas l'obligation d'un nul, et qu'il t'arrive d'avoir, comme on a pu le voir hier, même si après ça s'est arrangé, il t'arrive de voir Angers ouvrir le score. Je dis pas qu'il te tombe le ciel sur la tête, mais presque. Parce qu'une égalisation, ça ne suffit pas. Il faut déjà, et de pas faire l'erreur, de penser au deuxième but avant même d'avoir égalisé. Par contre, si tu dois faire sur une 38e journée un match nul, eh ben, si Angers ouvre le score, c'est un petit nuage qui te tombe sur la tête. Il suffit de regarder combien il te reste à jouer. Évidemment, si c'est la 93e minute, tu es mal. Mais si c'est à 20, 30, minutes de la fin, tu as tranquillement le temps de préparer ton égalisation et de ne pas faire la stupidité d'aller plus vite que la musique. Voilà, c'est ça que je fais, moi, la différence.
Bien sûr que coach a raison aussi quand il dit qu'il faut mieux prendre qu'un point, être dans l'obligation de prendre un seul petit point que trois. Maintenant, je vais te dire, pour moi, si Lille n'est pas capable de gagner à Angers aujourd'hui, même sans Rui Fonte, le défenseur.
Non, José. Rui, c'est son frère.
Ah ouais. Pardon. José Font.
Ah ouais.
Et donc, même sans, on va dire, leur leader de défense, si Lille n'est pas capable de gagner à Angers ce soir, ça veut dire que, et si le Paris Saint-Germain venait à leur passer devant, c'est qu'ils auraient raté la dernière match. Quand on parle de mérite ou pas.
Les deux derniers.
C'est ce soir qu'ils vont devoir. Il leur restait 4 points à prendre, ils en ont pris un. S'ils veulent être champions, il faut prendre les 3.
Ah, parlons du PSG. On remercie Jean Baumel hein, d'ailleurs. Qui a
alors,
une...
dernière petite stat, hein, ouais. C'est, Lille, c'est en 18 matchs à l'extérieur, c'est 13 victoires, 4 nuls, une défaite. Hein, donc voilà. À l'extérieur, c'est. Voilà, il reste sur une série quand même, une victoire à Paris, à Lyon, à Lens.
Quand il faut conclure, c'est toujours difficile.
Ouais.
T'en sais quelque chose, Jean Baumel.
Bah, c'est sûr que si le match avec l'effet de jeu.
Je suis marié, monsieur.
Ouais, si ce match-là avec l'effet de jeu se passe comme à Lens, c'est sûr que là, Angers n'a aucune chance.
Alors, justement, parlons du PSG. Loïc Braillet est bien évidemment avec nous. Hein, le PSG qui est en déplacement à Brest ce soir. Paris qui vient de gagner la Coupe de France. Donc, c'est déjà un trophée de remporté pour le PSG cette saison. Paris qui n'a pas son destin entre les mains, Loïc, mais qui n'a pas non plus le droit de passer à côté ce soir. Ça serait très mal perçu, en tout cas, pour les supporters
du
PSG.
Effectivement. En fait, le maître mot qui résume les derniers jours là, du PSG, c'est concentration. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un boulot à finir, mais ce boulot, s'il est terminé correctement, ne signifie pas un titre forcément au bout, contrairement aux Lillois qui, eux, n'ont qu'à gagner leur match et ils n'ont même pas besoin de regarder ce qui se passe à côté. Paris dépend encore de Lille. Donc, ils ont quand même ce travail à finir. Et d'ailleurs, preuve que la concentration était vraiment le maître mot des derniers jours. Il n'y a pas eu de festivité particulière au sein de l'équipe après la finale de la Coupe de France remportée contre Monaco. Jour de repos jeudi, reprise de l'entraînement vendredi avec beaucoup de sérieux. Vraiment là, on veut mettre le sérieux et la concentration jusqu'au bout pour ne pas avoir de regrets évidemment sur un match qui, ben voilà, même si on est à l'extérieur face à une équipe mal classée, eh bien Paris a eu des accidents, beaucoup d'accidents cette saison, sachant qu'en plus l'adversaire, contrairement à Angers, lui joue vraiment quelque chose, joue tout simplement sa survie en Ligue 1. Donc il faut s'attendre à rencontrer une équipe de Brest très costaud, notamment sur le plan physique. Donc voilà, on est concentré du côté de Mauricio Pochettino. On a un peu répondu avec anticipation parce que les journalistes ont déjà posé la question d'une éventuelle défaite, soit contre Brest, en tout cas de l'absence de titre pour le PSG. Mauricio Pochettino a indiqué que ce ne serait pas une saison ratée, que ce serait une énorme déception, mais tout a relativisé avec le parcours en Ligue des Champions et malgré tout le trophée en Coupe de France.
Si j'ai bien compris, tu veux nous expliquer qu'il y aurait peut-être pire encore que de ne pas être champion, c'est-à-dire ne pas gagner à Brest alors qu'on apprend que du côté d'Angers, Angers a réussi à accrocher Lille. Ce serait complet. C'est sûr que s'il y a ça comme scénario, c'est sûr que perdre le titre. Bon, mais là, on le sait, il suffit que Lille gagne, même si c'est pas évident. Mais se faire accrocher à Brest alors que Lille se fait accrocher à Angers, alors là,
ce serait plus qu'un échec, serait une faute professionnelle.
Je sais même pas ce que je pourrais dire.
D'ailleurs, Loïc, deux questions pour toi. La première, est-ce que Mauricio Pochettino va se tenir informé de ce qui se passe à Angers? Est-ce qu'on a l'info là?
A priori, oui, de toute façon, sur le banc de touche, il y aura quelqu'un qui aura une oreille sur RMC, peut-être d'ailleurs avec le multiplex et les scores, en tout cas sur les autres pelouses, et notamment à Angers, que ce soit en direct Pochettino, voire même ses adjoints, pas sûr, ça peut être quelqu'un d'autre dans le staff qui est pas loin, et ils veulent quand même rester très concentrés sur le jeu.
Loïc, qui c'est cet adjoint qui l'accompagne?
C'est la nouvelle cible de Roland, celui qui l'accompagne en conférence de presse.
C'est pas une cible, c'est une décoration, donc il accompagne en conférence là,
C'est l'un de ses adjoints qui l'accompagne depuis pour l'instant de traducteur en tout cas
mais je le vois jamais traduire quoi que ce soit.
Roland a vu les images de la confi hier, ça l'a énervé.
J'ai pas de chance. Peut-être que quand je vois le passage, il est tout simplement en train de regarder et d'attendre. Quoi.
Et si coach il était là, justement, au cas où Mauricio Pochettino qui parle et qui comprend un peu le français, mais pas complètement, au cas où, au cas où il y a une question qui soit pas assez claire pour peut-être. Le coach argentin, là, son adjoint ou son collègue va pouvoir lui transmettre les informations de façon plus claire.
Donc, entre l'un et l'autre, on peut pas dire qu'il y a une distribution de sourires.
C'est sûr.
On est bien d'accord.
Mais c'est peut-être l'enjeu, ça, coach Courbis.
Ouais, mais peut-être, c'est l'angoisse, c'est vrai.
Loïc, groupe élargi à Paris, et les stars seront là ce soir au coup d'envoi à Brest.
Ça va être la grosse équipe, évidemment, puisqu'il y a le retour de Neymar, il y a le retour de Presnel Kimpembe, et hormis les absents un peu de longue durée, entre guillemets, donc Verratti, Kurzawa et Bernat, tout le monde est à dispo pour Mauricio Pochettino. On va avoir a priori, sans trop de surprise, du Navas dans les buts, Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Diallo dans les couloirs, Gay, Paredes au milieu, Di Maria, Neymar, Mbappé et Mauro Icardi en pointe. Donc c'est quand même très très costaud. Les Brestois vont devoir sortir vraiment un match de folie pour tenter ne serait-ce que d'accrocher ce PSG ce soir.
Merci Loïc Braille, coup d'envoi 21h de ce Brest-Paris-Saint-Germain. On repart du PSG à 18h évidemment, tout au long de l'après-midi et de la soirée sur RMC, la course au titre entre Parisiens et Lillois. Merci Loïc. 17h25 sur RMC, il s'est passé beaucoup de choses en Première Ligue, Anthony Reich.
Oui, on est presque à la demi-heure de jeu et Leicester qui est toujours virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions, les Foxes qui mènent 1-0 face à Tottenham grâce à un pénalty de Jamie Vardy, et puis peut-être un coup dur pour l'Euro Espoir et le groupe de Sylvain Ripoll, puisque Wesley Fofana est sorti à la 21e en pleurs sur blessure. On n'a pas encore le détail de la blessure, mais en tout cas ça a l'air assez sérieux.
Cheville, genou, on ne sait pas.
On n'a pas vu les images quand il est sorti. En tout cas, pour ce qui est des deux autres prétendants à la Ligue des Champions, de Chelsea et Liverpool, 0-0 dans les deux rencontres.
Donc on peut annoncer la sélection de Camara.
On en reparlera avec Sylvain Ripoll, effectivement sélectionneur des espoirs, qui sera avec nous à 17h40. Mouba Camara qui n'est pas présent dans la liste, mais là la blessure de Wesley Fofana,
il va y avoir une bonne ambiance,
peut effectivement nous inquiéter. Le match, le quart de finale contre les Pays-Bas à l'Euro Espoir, ce sera le 31 mai. 17h26 sur RMC. Dans un instant on parle du sprint final pour la Coupe d'Europe, Monaco et Lyon pour la Ligue des Champions, Marseille, Lens et Rennes pour les autres places. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot,
Benoît Boutron
avec coach Courbis et Kevin Diaz jusqu'à 19h sur RMC. Dans un quart d'heure, Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, sera notre invité. Les Bleus qui disputeront le quart de finale de l'Euro contre les Pays-Bas le 31 mai. On abordera plusieurs sujets avec lui, notamment la non-sélection du Marseillais Boubacar Camara. On y va pour la course à l'Europe.
RMC, le sprint final.
5 clubs sont engagés, 2 pour la Ligue des Champions, Monaco et Lyon, 3 pour le reste, Marseille, Lens et Rennes. Et on accueille tous nos correspondants concernés, Édouard G, Clément Brossard, Morgane Maury et Maureen Lehoux. Salut à tous.
Salut, coach.
Salut les amis.
Je précise que Jean Baumel est resté avec nous puisqu'il court et à la fois Lille qui vise le titre de champion et à la fois Lens qui vise une place.
Quel gourmand.
En Coupe d'Europe.
Moi, je veux tout. Moi,
il se régale cette saison, effectivement. Contrairement à toi, Eva. Honneur au mieux classé. Tiens, parlons de l'AS Monaco. Les Monégasques 3e de Ligue 1 avec un point d'avance sur Lyon. Monaco qui se déplace à Lens pendant que Lyon reçoit Nice. Clément, comment Monaco aborde cette dernière ligne droite, finalement, peut-être avec de la sérénité, c'est ce qui est insufflé par le coach Kovac.
Ils n'ont pas eu le temps en tout cas de gamberger après la finale de Coupe de France. C'était il y a 5 jours. Ils sont revenus à 4h30 du Parc des Princes jeudi matin, dans la nuit même. Et Loïc disait tout à l'heure que Paris avait eu un jour de repos, pas Monaco. Ils se sont entraînés directement à 17h jeudi. Et Kovac a rapidement tourné ses joueurs vers le match de ce soir. Le sourire était de retour sur les lèvres monégasques cette fin de semaine. Les convocations avec les espoirs de Badiachil, Fofana, Tchouaméni, celle de Voland avec la Mannschaft, de Ben Yedder avec les Bleus, la récompense du meilleur espoir pour Tchouaméni, tout ça, ça a pesé sur le moral des joueurs. Ils sont arrivés hier en fin d'après-midi à l'aéroport de Lille avant de rejoindre un hôtel dans la banlieue de Lens. Réveil musculaire à midi avant le déjeuner, la collation du milieu d'après-midi. Dans les prochaines minutes, là, les Monégasques vont avoir une dernière réunion technique. Ils rejoindront ensuite le stade Bollard vers 19h15. Un membre du vestiaire m'a affirmé qu'il n'y avait aucune pression sur les joueurs, que tout se déroulait comme une journée normale, que l'heure est plus que jamais à la concentration. Les joueurs absents du groupe, Jovetic et Diop, jugés trop justes physiquement, n'ont pas fait le déplacement avec leurs coéquipiers. Au Stade de France, mercredi, même les indisponibles étaient du voyage. Ça peut expliquer qu'on ne se projette pas forcément sur une éventuelle fête nocturne si jamais Monaco termine 3e. Rester focus, c'est ce qu'adore répéter Niko Kovac depuis le début de saison. Et le coach ne se tiendra pas informé des résultats de Lille, de Paris et de Lyon en cours de match. Selon ses dires, on a évidemment du mal à y croire.
évidemment, infime chance pour Monaco d'être sacré champion de France, mais il faudrait voir Lille perdre à Angers, Paris perdre à Brest avec un certain écart de but, et puis que Monaco fasse le travail effectivement du côté du Stade Bollard.
Coach fonce, la cote elle est à 500.
Bon, Roland, oui, tu crois ?
Mais non, mais disons que j'avais même pas envisagé une seconde qu'on pouvait. Ouais, bon, si tu avais envie de dire une connerie, une plaisanterie, tu peux parler de Monaco champion, mais je pense que si on parle sérieux, on va parler de Monaco troisième.
Eh oui. Ou Monaco quatrième.
Et voilà.
Qui ont l'espoir de terminer troisième. Et surtout l'inquiétude de se faire doubler par Lyon. Monaco champion, je pense pas que ça doit être dans les discussions de Monaco.
Qui sont forts, ces messieurs Courbis et Diaz. La transition est parfaite pour aller à Lyon, retrouver Edouard G. Évidemment, Lyon qui de son côté doit battre une équipe niçoise qui n'a plus rien à jouer pour conserver un espoir de Ligue des Champions. En plus, Edouard, c'est un soir de dernière, ça va faire mal au cœur de Kevin Diaz, mais la dernière pour Memphis Depay sous le maillot lyonnais notamment.
Oui, alors il y a ceux dont c'est la certitude qu'ils vont partir, donc Memphis et Rudy Garcia, mais avant je voulais parler peut-être des presque sûrs à partir. Oussem Aouar, on l'a eu en conférence de presse vendredi, il a un peu fait le normand, je pars pas, voilà, ça va bien évidemment dépendre des offres, mais en tout cas il est focus sur ce match de ce soir. Parmi les presque sûrs, Djamel Benlamri, pourquoi pas Maxwell Cornet, pourquoi pas aussi Karl Toko Ekambi, et puis les sûrs, même si en conférence de presse vendredi, Rudy Garcia a émis le vœu pour l'OL de et surtout pour Memphis Depay d'accepter éventuellement une prolongation de l'OL. Eh bien, c'est la dernière pour Memphis Depay, leader de statistiques, capitaine sous Rudy Garcia, 20 buts, 10 assists cette année. Ça sera son 138e match de Ligue 1. Imaginez-vous, sur 138 matchs, il a participé à 105 buts, 63 buts et 42 passes décisives. Un seul joueur sur la période, depuis janvier 2017, son arrivée a fait mieux que lui, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Bah voilà pour Memphis Depay, qui a, pendant l'intervalle quand même, eu aussi un genou en vrac. Du coup, même si c'était pendant la pandémie,
et un retour express,
ouais, surtout ouais. Derrière, parce que mine de rien, la saison qu'il fait, c'est la saison après 6 mois, 7 mois de.
Il se blesse en décembre, genou. Il est là au Final 8, c'est ça qui est dingue.
Eight, mais là, voilà, exactement.
Moi, je soulignerai quelque chose. Bon, c'est ma vision. Après, vous me direz ce que vous en pensez. C'est que. J'ai lu toutes les déclarations de Memphis Depay, que par moment, bon, je trouve ça sympa, je trouve ça mignon. Mais ce que je n'ai pas lu, et qu'on pourrait quand même lui dire, ça a peut-être été le cas, c'est qu'il y a du côté de Lyon une certaine patience à un certain moment et un certain comportement. Parce que si ce soir... Il va manquer un ou deux points à Lyon, imaginons, pour être troisième. La période qu'il n'était pas en forme et que Lyon, en jouant pratiquement à 10 ou à 10 ou à 10 ou à 10 et demi, le faisait jouer quand même pour qu'il retrouve le rythme, pour qu'il retrouve, disons, sa grande forme. Ça a été une période que ça ne se fait pas dans tous les clubs. Ça, je ne sais pas si ça lui a échappé.
Oui, mais plus globalement, ouais, quand même, Kevin, Edouard, le passage de Depay à Lyon, c'est une réussite. Quand
bien
même.
Sûr, bien sûr, c'est une réussite.
Roland.
C'est une réussite parce que déjà, il a fait.
Oui, non, mais dans cette période, excuse-moi, dans cette période. Là, excuse-moi, c'était un boulet.
Oui.
Oui, mais cette période-là, elle a quand même fini une saison avec 20 buts et 10 passes décisives. Je pense pas qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui ont fait ça sur les 10 dernières années.
Non, personne l'a fait. Dans l'histoire de Lyon, personne l'a fait.
Dans l'histoire de Lyon même, donc voilà. Je crois qu'il a fait 173 matchs. Il y a quand même beaucoup de fois où il a été décisif. Donc bon, après, c'est vrai que comme dit coach, il aurait pu aussi re-signer, mais honnêtement, je n'y croyais pas déjà de l'année dernière. Pour moi, si ça avait été une saison dernière normale, je pense qu'il serait parti. Il serait parti s'il n'y avait pas eu le Covid. Il y a bien un club qui aurait débourré.
Ouais, mais ça aurait arrangé Lyon, qui aurait quand même encaissé les sous.
Ouais, mais peut-être qu'ils auraient perdu 20 buts et 10 passes décisives cette saison.
Ouais, ben bah, écoute, peut-être qu'ils auraient fait aussi bien avec ses sous pour remplacer
Depay. Je suis pas sûr qu'ils auraient trouvé un mec qui aurait mis 20 buts et 10 passes décisives cette saison. Mais bon, voilà. Après, c'est toujours le club à avoir. Et qu'est-ce Exactement. Qu'on fait ? Est-ce qu'on prolonge un joueur ? Est-ce qu'on le garde jusqu'à la fin de son contrat ? En tout cas, je pense que lui a rempli son propre contrat. C'est dans sa dernière année d'être quand même motivé et de tout donner pour son club.
Et on remercie Edouard G et Jean Baumel qui étaient avec nous. Salut les gars, on vous retrouve ce soir 21h. Évidemment, Jean Baumel reste avec nous. C'est Clément qu'on salue puisqu'il suivait Monaco.
Salut les gars,
et évidemment, Edouard qui lui sera au match entre Lyon et Nice. Jean Baumel reste. Metz, puisque c'est l'autre course à l'Europe. Hein, 4e et 5e place qualificative pour la phase de poule de Ligue Europa. La 6e pour la Ligue Europa Conférence. On va démarrer par Marseille. Marseille qui s'est assuré une place en Coupe d'Europe la semaine dernière avec bien le résultat de la semaine dernière. Et Marseille qui est 5e avec 3 points d'avance sur Lens et 4 sur Rennes. Finalement, Morgan Mori, Marseille n'a besoin que d'un point ce soir pour être totalement tranquille et disputer la Ligue Europa la saison prochaine.
Oui, la mission semble très compliquée pour les Marseillais ce soir à Metz, puisque Marseille, tu l'as dit Benoît, a 3 points d'avance sur les Lensois et une grosse différence de but aussi par rapport à l'équipe artésienne. Plus 6 pour les Marseillais. Il faudrait une défaite et que Lens remonte cette différence de but contre Monaco, qui plus est, pour priver les Marseillais de Ligue Europa, parce que Marseille a besoin de cette Ligue Europa pour, je cite Steve Mandanda, sauver les meubles d'une saison très très agitée sur la Canebière, sur le terrain et en dehors, avec le départ d'Andrés Villas-Boas, l'intérim de Nasser Larguette, l'arrivée de Jorge Sampaoli. Donc ce soir, les Marseillais doivent prendre un point ou battre les Messins pour s'assurer de la qualification en Ligue Europa la saison prochaine, avec un effectif un peu bizarre, on va dire, ce soir, puisque Jorge Sampaoli a envoyé en vacances Germain, Raoui et Cuisance. Vacances avancées, on va dire, pour ces joueurs. Un autre qui est en vacances, c'est Florian Thauvin, puisqu'il est suspendu et ne peut donc pas jouer contre les Messins ce soir. Il va pouvoir préparer son transfert au Mexique, au club des Tigresses. Un qui s'en va, c'est Sakai, qui va aller jouer au Japon la saison prochaine, qui est blessé. Un autre, c'est Jorge Sampaoli, lui qui est suspendu. Il sera donc en tribune pour coacher son équipe. Mais un qui est bien là ce soir, Benoît, c'est Franck McCourt, qui a fait le déplacement des États-Unis car il veut passer du temps avec les joueurs sur ces derniers moments de la saison. Mmh. Et il a des dossiers à régler, bien sûr, avec la direction du club dans les bureaux Marseille.
Ou alors il voulait visiter le centre-ville de Metz. C'est possible. Merci Morgan Mori pour toutes ces infos autour de l'OM. Parlons de Lens. Jean Baumel, t'es resté puisque Lens veut achever sa magnifique saison avec une qualif pour la Coupe d'Europe. Les Lensois qui étaient promus cette saison. Jean Baumel, ils doivent mettre fin à une série de 3 défaites. Hein. Ils ont perdu contre Paris, contre Lille et contre Bordeaux. Et il faut arrêter cette série contre Monaco ce soir, Jean.
Ouais, c'est surtout... c'était jamais arrivé, hein, 3 défaites consécutives en championnat. Celle qui fait mal, c'est celle du derby, hein, avec un scénario qui était très très compliqué et un but encaissé très rapidement sur pénalty.
Une expulsion très sévère.
Voilà, un derby, voilà, un match à oublier pour eux. Et dans la foulée, ils se sont pas remis la tête à l'endroit parce qu'ils en ont pris 3 du côté de Bordeaux. Donc eux qui font une superbe saison, ça y a rien à dire. S'ils veulent l'Europe, il va falloir faire pas un exploit, mais en tout cas un gros match, parce que l'exploit, ils l'ont fait au match aller. Déjà, ils avaient gagné 3-0 à Louis II, ouais. Faut le rappeler. Là, il va falloir tout simplement essayer de gagner. En fait, dans ce match, s'ils font match nul tous les deux, je pense qu'ils peuvent se retrouver tous les deux chocolat. Donc il faut qu'il y ait un perdant, en fait, dans ce match. Voilà, c'est là. Je pense qu'ils vont devoir se livrer d'un côté comme de l'autre. On verra, en tout cas très intéressant. Ouais. Pour Lens, 6e, c'est l'Europa League Conférence, c'est la petite Coupe d'Europe. Lens est l'équipe promue, la mieux classée dans les grands championnats. Voilà, donc il y aurait une déception, ça c'est sûr, même si Francaise l'a dit, 7e, c'est déjà un super parcours. Maintenant, je pense que la petite Coupe d'Europe, même, franchement, ça leur donne envie, et pareil pour Joseph Ougolian, le président. Il y a deux phrases à retirer sur les conférences de presse. Francaise qui dit: envie de voir mes joueurs se lâcher totalement une dernière fois, et Yannick Cahuzac, le capitaine, faire quelque chose de grand. Voilà, il y a une forte attente à Lens, un peu, et puis on peut imaginer que pour les supporters, retrouver la Coupe d'Europe avec un Stade Bollard plein la saison prochaine, ça donne envie.
Ok, merci Djibo. On se retrouve ce soir évidemment à 21h sur RMC. Et puis le dernier candidat à la Coupe d'Europe, c'est Rennes, le 7e du championnat, qui espère décrocher cette qualif pour la 4e saison consécutive. Les Rennais n'ont pas leur destin entre les mains, Maureen Lehoux, mais ils ont peut-être le match le plus facile à aborder sur le papier, puisque c'est face à Nîmes ce soir. Hein.
Ouais, effectivement, sur le papier, il n'y a aucun doute, Rennes est favori, même si les Rennais n'ont plus gagné depuis 3 matchs. Favori parce que face à eux, il y a Nîmes, déjà relégué depuis le week-end dernier et qui a vécu une semaine noire avec l'annonce du désengagement du président Rani Assaf, qui voudrait déposer le bilan. Bref, les Nîmois auront probablement la tête ailleurs. Les Rennais, eux, sont investis, impliqués, a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse, pour ne surtout pas avoir de regrets, gagner et espérer donc un faux pas des Lensois face à Monaco. Pour ça, eh bien, Genesio devra faire sans Damien Da Silva, son capitaine suspendu, sans aussi Fabien Tay, qui était bien l'homme fort de cette fin de saison, qui est également suspendu. On devrait donc retrouver un 4-4-2 côté rennais, avec Terrier associé à Guirassy devant, et puis forcément, on aura un œil particulier avec la paire au milieu de terrain Nzonzi Kamavinga, parce que les deux joueurs, eh bien, pourraient peut-être jouer leur dernier match sous le maillot rennais. Bref, pour Rennes, ça sent peut-être la fin d'un cycle. Ce qui est sûr, c'est que ça sent la fin de saison et qu'il faut finir sur une bonne note.
Merci Maureen, on remercie également Clément, Morgane, Edouard et Jean qui étaient avec nous. Les matchs Lens Monaco, Lyon Nice, Rennes Nîmes à suivre dès 21h sur RMC. 17h41, il s'est passé énormément de choses en première ligue, Anthony Reich.
Oui, ça continue de se bagarrer à distance pour cette course à la Ligue des Champions. À l'instant même, Tottenham égalise face à Leicester par l'inévitable Harry Kane qui plante son 23e but en championnat cette saison. Du coup, ce qui fait que Leicester perd un petit peu de terrain. Dans le même temps, Liverpool a ouvert le score grâce à Sadio Mané sur un corner, un ballon qui traînait, Sadio Mané au deuxième poteau. Ce qui fait que Liverpool repasse troisième et donc qualifié. Chelsea, qui est toujours tenu en échec, reste quatrième et Leicester cinquième. Donc Leicester toujours exit de cette Ligue des Champions. Ouais. C'est chaud, c'est chaud.
Un multiplex, c'est beau, mais alors un multiplex de première ligue, c'est un feu d'artifice.
Ouais, avec du public dans les stades, imagine. On se régale. 17h42 sur RMC, dans un instant, un invité dans l'Intégral Foot, Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. À tout.
RMC, Intégral Foot,
Benoît Boutron.
Avec Coach Courbis et Kevin Diaz sur RMC, évidemment, cette info à vous donner, puisqu'on voit les supporters parisiens qui sont massés dans le virage Auteuil du Parc des Princes avec énormément de fumigène allumé. Et ce message des supporters parisiens envers leurs joueurs, gagnez le titre pour vos couleurs historiques, évidemment, ça a fait polémique, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, le PSG qui est en course pour le titre avec Lille. On en reparle à 18h sur RMC. 17h45, petit tour en première ligue, il y a des buts à nouveau, et cette fois entre Aston Villa et Chelsea, Anthony Reich.
Ouais, Thomas Tuchel qui fait grise mine puisque Aston Villa vient d'ouvrir le score à la 44e minute sur un corner, une belle reprise un petit peu déviée mais qui va sous la barre de Mendy, et l'entraîneur allemand qui est assez exaspéré puisque à l'heure actuelle, à 3 minutes de la pause dans cette dernière journée de Première Ligue, Chelsea est bien 5e et donc sort de la Ligue des Champions, même si les Blues, on le dit, on le répète, ils ont une sorte de session de rattrapage s'ils gagnent la finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et donc pour l'instant, c'est Liverpool et Leicester qui seraient qualifiés pour la Ligue des Champions. Liverpool qui mène 1-0 et Leicester qui est tenu en échec pour l'instant, un but partout.
17h45 sur RMC, un invité dans l'Intégral Foot, Sylvain Ripoll, sélectionneur de l'équipe de France Espoir, et notre invité, donc les Bleuets, qui s'apprêtent à disputer la phase finale de l'Euro, quart de finale contre les Pays-Bas, prévu le 31 mai prochain à Budapest, un entretien qui a été enregistré il y a tout juste une heure. Bonjour Sylvain Ripoll.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être,
salut Sylvain,
d'être avec nous.
Bonjour Roland.
Vous vous attendez à un été chargé, forcément, avec cette phase finale de l'Euro et les Jeux Olympiques qui arriveront à la fin du mois de juillet. Évidemment, j'imagine qu'aujourd'hui, on est le 23 mai, on se concentre uniquement sur cette phase finale de l'Euro et sur ce quart de finale à venir contre les Pays-Bas, Sylvain.
Oui, d'abord on a un été chargé effectivement, on a fait ce qu'il fallait pour que ce soit comme ça, donc c'était une bonne chose. Et puis d'abord effectivement chronologiquement il y a cette phase finale du championnat d'Europe avec ce quart de finale contre les Pays-Bas qui va en tout cas monopoliser toute notre attention, c'est évident.
L'actu chaude évidemment, c'est cette dernière journée de Ligue 1 qui se déroulera ce soir. Elle est très importante pour vous également puisque vous avez 3 des 23 sélectionnés qui pourraient terminer 18e avec leur club et ainsi disputer les barrages. Vous avez été clair lors de l'annonce de votre liste. Priorité sera donnée au club et vous remplacerez les joueurs s'ils sont mobilisés par leurs équipes. Je rappelle qu'il y a Fèvre à Brest, au Romain Fèvre, Randal Kolo Muani et Alban Lafont à Nantes. J'imagine donc que vous aurez un regard particulier sur les prestations nantaises et brestoises ce soir.
Ouais, je vais effectivement suivre attentivement cette dernière journée parce que c'est vrai qu'elle aura des incidences sur ce que vous venez d'expliquer. Après, c'est vrai que j'ai préféré être clair tout de suite parce que je pense que c'est la meilleure solution pour les joueurs, pour les clubs et puis aussi pour nous d'avoir une quelque chose qui soit clair dès le départ parce que il est évident qu'il est important à mon sens de libérer les joueurs qui seront engagés pour les barrages s'il y en a.
Et en plus, même si on sait qu'il y a rarement des matchs faciles, attaquer contre les Pays-Bas, ça fait partie aussi d'un pays où il y a toujours eu de bons joueurs et de bons jeunes avec une bonne une bonne formation d'ailleurs en ce qui concerne notre formation française, bon, qui a été critiquée régulièrement, voire même dernièrement, mais quand je lis la liste de ceux qui sont dans la liste, et de ceux aussi qui n'y sont pas, sincèrement, on a une génération et des joueurs qui n'ont pas trop été mal formés quand même.
Exactement. Justement, parlons-en de cette liste à la fière allure. Hein. Certains joueurs ont déjà connu les A, Kamavinga, Aouar, Upamecano. On peut citer Fofana, Moussa Diaby, les Monégasques Fofana également et Tchouaméni. La grande majorité évolue dans des grands clubs. Ce qui nous a le plus surpris, vous en doutez, Sylvain Ripoll, c'est l'absence de Boubacar Camara, le Marseillais.
Ouais, mais qui démontre le niveau de cet
exactement.
Effectif.
Exactement. Bon, nous, on l'imaginait.
En plus, il joue à deux postes.
En plus, il peut jouer milieu de terrain et défenseur central. Nous, on l'imaginait chez Léa il y a quelques mois. Ne pas le voir dans cette liste des espoirs, ça nous surprend. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix, Sylvain?
C'est un poste très, très concurrentiel. C'est un secteur de jeu où, effectivement, on a beaucoup de très, très bons joueurs, dont Bouba Camara, bien évidemment. Après, vous n'avez qu'à regarder les milieux de terrain qui sont sur la liste. Et puis, c'est vrai que ça confirme cette concurrence féroce. Maintenant, la liste, elle n'est pas extensible. Voilà. Et puis, après, analyse et réflexion du moment, voilà, mes choix ont été ceux-là.
C'est sûr que, bon, c'est un choix, évidemment. Et des fois, les choix, ils sont vraiment compliqué, puisque lui, avec le départ de Koundé, donc ça permettait
aussi, chez les A, hein,
aussi de pouvoir l'utiliser. Mais bon, ce qu'on regarde, c'est le niveau. Et en ce qui concerne l'organisation que tu vas faire, vous êtes préparé à deux organisations, c'est-à-dire une avec deux arrières centraux et une autre avec trois arrières centraux, ou pratiquement une seule avec des joueurs qui ont l'habitude de cette organisation?
Jusqu'à présent, on est surtout resté dans une organisation avec deux défenseurs centraux depuis très très longtemps maintenant. Maintenant, c'est vrai que je m'interdis pas, le cas échéant, d'envisager une organisation à trois. Après, vous le savez, la difficulté en sélection, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'entraînement, et j'estime qu'un changement d'organisation en cours de route comme ça nécessite un minimum de séances d'entraînement en commun. C'est la raison pour laquelle c'est plus difficile de passer à une autre organisation, mais je me l'interdis pas malgré tout.
Sylvain Ripoll, le sélectionneur des espoirs, est avec nous, évidemment. Je voudrais juste rebondir sur le choix de ne pas sélectionner Boubacar Camara. Il était présent en mars pour la phase de poule. Il a même joué certaines rencontres. Est-ce que vous en avez tenu compte au moment de vos choix? Je rappelle qu'il y a eu une défaite contre le Danemark et ensuite deux victoires.
Je tiens compte de tous les paramètres. Maintenant, honnêtement, effectivement, ce premier match s'est pas bien passé, mais c'était une responsabilité collective. Bien évidemment, ça s'arrête pas à ça. Et après, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de très très bons joueurs à ce poste-là, forcément, c'est un casse-tête, et je suis obligé d'éliminer des très bons joueurs. Et sur ce rassemblement-là, c'est le cas.
Il y a un règlement que je ne connais pas, et je profite d'avoir le plaisir de te parler pour te le demander. Si, par exemple, en A, il y avait un problème, soit ce soir dans la dernière journée, ou soit à l'entraînement, ou soit dans un match de préparation, mettons, allez, un milieu.
Donc un des 26, voilà, de l'équipe de Didier Deschamps qui se blesse.
Un des 26, ouais. Donc un milieu de terrain. Tu as, mettons, Kamavinga qui passe avec les A. Est-ce que là, tu as le droit de remplacer Kamavinga qui se blesse, ok, mais qui passe avec Léa, est-ce qu'on a le droit de le remplacer?
Oui, parce que là, il y a eu en plus une dérogation sur ce tournoi-là. Moi, j'ai donné la liste jeudi, mais on a jusqu'à lundi soir 23h59 pour fournir la liste définitive pour ce championnat d'Europe.
Ah, voilà.
Donc effectivement, ce soir, il peut encore y avoir un réajustement.
Ouais. Alors, mais c'est intéressant d'aborder ce thème, parce que vous avez discuté avec Didier Deschamps, c'est lui qui l'a dit, notamment pour le choix de Jules Koundé, le faire monter avec les grands, avec les A pour disputer l'Euro. Est-ce que d'autres cas ont été abordés? Est-ce que vous avez déjà parler de cette solution, pourquoi pas d'intégrer d'autres joueurs de votre liste chez Léa si jamais il y a un problème, Sylvain Ripoll?
En tout cas, ça fait partie des choses dont on discute, évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'une fois que notre liste sera donnée pour ce tournoi-là, il sera difficile d'en changer. mais en tout cas j'espère qu'on terminera le plus tard possible, c'est-à-dire le 6 juin, et Didier l'a sous-entendu, en cas de problème, il ne s'interdira pas, s'il le souhaite bien évidemment, de récupérer des joueurs qui sont en espoir à partir de cette date-là.
Vous voulez nous dire un mot sur Jules Koundé? Ça fait partie de vos capitaines, vous êtes surpris de le voir chez Léa ou vous y attendiez compte tenu de la saison qu'il a réalisée avec le FC Séville?
Surpris, je ne le suis pas, non, pas du tout. Compte tenu de ce qu'il a réalisé effectivement avec son club, mais pas que depuis cette année, déjà l'année dernière, et puis de ce qu'il a démontré aussi avec nous sur la phase de poule où il a été une grande performance et avec un investissement total et une personnalité très très positive. Non seulement je suis pas surpris, mais je pense qu'il le mérite.
Ça vous pose un problème supplémentaire puisque ça vous fait désormais trois capitaines absents puisque Jeff Rennedalaïd, lui, a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Matteo Guendouzi ne peut pas être là lui non plus, c'était lui le capitaine lors de la phase de poule. Jules Koundé faisait partie également de ses capitaines. Qui sera votre capitaine du coup contre les Pays-Bas le 31 mai, Sylvain Répaul?
Avant de répondre à votre question, c'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant que les trois derniers à avoir porté le brassard ne puissent pas être avec nous. Maintenant, c'est comme ça. Ça fait partie des impondérables.
Les superstitieux vont pas vouloir être capitaine.
Non. Et il me reste, effectivement, une dizaine de jours pour me déterminer là-dessus. Je vais aussi réfléchir sur l'équipe qui démarrera, puisque forcément, ça a une incidence sur l'autre question. Et puis, je leur communiquerai ça en temps et en heure.
On a vu notamment les Monégasques Fofana et Tchouaméni sélectionnés. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur une entente de club justement pour avoir des certitudes pour la première composition, par exemple? Est-ce que vous y pensez à ça?
J'imagine que c'est des choses sur lesquelles certains peuvent penser. Maintenant, moi, j'ai une vision beaucoup plus large. Effectivement, Youssouf nous a rejoint sur cette période-là parce que je trouve quand même qu'il fait une grande saison avec une grande régularité. Et voilà, sacré, on revient au débat qu'on avait peut-être initialement aussi. Ouais.
Ça fait excuse-moi, mais tu as aussi un sacré effectif. Ah ouais. Malgré que ça puisse faire un sacré duo.
Exactement. Bien évidemment, donc voilà, ça fera partie de la réflexion des derniers 10 jours, sachant qu'il y a les performances, mais il y a aussi la fraîcheur à un moment donné où je pense que la fraîcheur va être importante pour attaquer ce type de tournoi.
Sylvain Répaul, j'ai encore deux questions pour vous. On le disait, certains joueurs ont connu les A, Oussem Aouar, Dayot Upamecano ou encore Eduardo Camavinga. Comment gérer leur frustration justement de se retrouver avec les espoirs et de ne pas discuter la grande compétition qui rêvait de disputer, j'imagine, au mois de juin prochain?
Ouais, alors d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que jusqu'à présent, j'ai pas ressenti de frustration parce que il y a certains déjà qui ont connu Léa, qui sont redescendus. Hein. Ça a été le cas d'Eduardo, de Giorgio Icone, de Matteo Guendouzi, qui avait déjà connu ce chemin-là. Jusqu'à présent, honnêtement, il n'y a pas eu de frustration, les choses se sont bien passées. Après, moi, j'ai confiance en eux pour mesurer l'importance d'un quart de finale d'un championnat d'Europe, même si c'est avec les espoirs. C'est une échéance hyper importante et je compte sur eux pour nous amener certainement cette expérience d'avoir touché au plus haut niveau.
Et puis avec un tel effectif, on vise forcément la victoire finale, Sylvain Répaul. On n'a plus gagné ce titre depuis 1988, mais là on a vraiment l'équipe pour le faire, non ?
Vous savez, j'entends, et c'est normal, parce que moi le premier, j'estime que notre liste a, entre parenthèses, de la gueule, ça c'est une évidence. Après, je pense que les 8, je sais pas si vous avez regardé le plateau final, mais les 8 équipes engagées sur ce tournoi-là auront cet objectif-là.
Si vous passez, vous prenez le vainqueur de Danemark-Allemagne, et ensuite on peut croiser soit l'Espagne, la Croatie, le Portugal ou l'Italie. En gros, les grosses nations sont là, quoi. En quart de finale.
Ouais, je crois qu'à part l'Angleterre qui s'est fait taper sur la phase de poule, tout le monde est là. Et c'est vrai que nos joueurs évoluent dans des grands clubs, mais voilà, si vous épluchez par exemple la liste des Pays-Bas, vous verrez que c'est exactement la même chose pour eux. Ouais. Leipzig, le PSG, Lille, l'Ajax, le PSV.
Donc si j'ai bien compris, mathématiquement, en battant les Pays-Bas, on va dans le dernier carré.
Eh oui.
Bien sûr, mais je pense que, je veux dire, si on se place du côté des Pays-Bas, eux pensent aussi certainement qu'ils ont une liste avec beaucoup de qualité. Je pense que ça va être le cas quasiment pour toutes les sélections. Donc, en tout cas, c'est aussi ce qui rend ce quart de finale contre les Pays-Bas tellement excitant. Et j'espère bien évidemment qu'on le passera et qu'on ira plus loin.
Merci Sylvain Répaul d'avoir été avec nous.
Salut Sylvain, et puis
merci à vous.
Bon courage. Ouais. Et donc, je te dis pas le mot merde, mais.
Ok. Merde. Merci à tous les deux. Merci, à bientôt. Au revoir.
À bientôt,
salut.
17h57, on rappelle également cette information. Wesley Fofana qui est sélectionné avec les espoirs, qui est sorti sur blessure avec Leicester. C'est la 38e et dernière journée de Première Ligue. D'ailleurs, c'est la mi-temps sur toutes les pelouses. Anthony Reich, il y a des incidences au niveau des buts.
Ouais, c'est la pause. Leicester est tenu en échec par Tottenham. Un but partout. Liverpool mène 1-0 grâce à Sadio Mané face à Crystal Palace. Et Chelsea est mené par Aston Villa. 1-0. Et au classement pour... deux petits buts de goal average, Leicester est cinquième et donc est sorti de cette course à la Ligue des Champions. Pour l'instant, les deux tickets sont donnés à Chelsea et Liverpool.
On est toujours là avec Kevin Diaz, coach Courbis. Dans un instant, on reparle de la course au titre. On ira prendre le pouls justement à Lille sur la grande place avec Lionel Top, tous les enjeux de la course au titre. Et puis, on fera également un retour en arrière sur cette fin de saison extraordinaire en 99, le duel pour le titre entre Bordeaux et Marseille. Coach Courbis d'un côté et Eli Bob de l'autre. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot. Tiens.